que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia. Logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir do noso xar. Oprimidas as mulleres, querémonos rebelar. Ergámonos, mulleres, rachemos.
Nadia pour la révolution sera féministe. Alors, pour commencer, je vais relayer une pétition qui est très importante. Il s'agit de sauver le 39-19 et de soutenir les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Solidarité Femmes et son réseau accomplissent depuis 30 ans un travail remarquable au plus près des femmes et des enfants victimes de violences. Le gouvernement veut transformer le soutien financier qu'il versait jusqu'à présent au 39-19 en un marché public ouvert à la concurrence, alors que les associations réclamaient une hausse de cette aide financière pour permettre de passer un service 24 heures sur 24. Un marché public et la mise en concurrence qu'il induirait risquent de fragiliser la Fédération Solidarité Femmes ainsi que les autres associations engagées contre les violences faites aux femmes. Un marché public réduirait la qualité du 39-19 qui apporte écoute, soutien psychologique, conseil, première information juridique et sociale au service des appelantes et de leurs proches. Donc je vous encourage à signer cette pétition que vous trouverez sur le site change.org. Où dans cette pétition, vous verrez, eh bien, nous demandons la hausse de l'aide financière pour aider ces associations et non pas le marché public. Donc pour... histoire de ce réseau, je vais rappeler cette histoire. Donc, à Strasbourg, en 1973, cela a commencé, l'histoire a commencé. Donc, une jeune femme se défenestre pour échapper au coup de son conjoint et meurt des suites de ses blessures. Alors, une poignée de proches de la Ligue du droit des femmes se regroupe. La Ligue du droit des femmes, créée par Simone de Beauvoir et actuellement qui existe toujours avec Annie Sugier. Armées de colle et de rouleaux, à la nuit tombée, elles inondent la ville de posters affichant SOS femmes battues, ainsi qu'un numéro de téléphone. Ainsi naît l'une des premières lignes d'écoute destinées aux femmes victimes de violences domestiques. Partout sur le territoire français, alors d'autres permanences téléphoniques de fortune voient le jour, associées à des actions concrètes. Par exemple, à Marseille, au moment où un époux violent descend au café, un camion vient exfiltrer une femme et ses trois enfants. À Paris, on milite pour la reconnaissance du viol conjugal, sans savoir qu'il faudra attendre encore 15 ans. Et en 1986, le collectif féministe contre le viol qui a pour sigle CFCV, ouvre la ligne Viol Femmes Info. En 1989, première campagne nationale sur les violences conjugales en lien avec le réseau Solidarité Femmes qui crée en 1992 la ligne d'écoute violences conjugales Femmes Info qui deviendra le 3919. C'est donc cette histoire militante qui coule dans les veines du 3919, désormais ligne nationale unique d'écoute pour les femmes victimes de violences, aujourd'hui portée par un réseau de 73 associations de terrain présentes sur l'ensemble du territoire français. La Fédération nationale Solidarité Femmes qui est de plus appuyée par 12 associations nationales et leurs réseaux respectifs. Une trentaine d'écoutantes professionnelles qui viennent recueillir la parole d'environ 2000 victimes chaque semaine et même 7000 appels hebdomadaires pendant le premier confinement. Donc voilà, vous pouvez agir donc en signant cette pétition pour sauver ces associations et le 3919. Voilà, alors ensuite je vais vous présenter quelques autres petites actualités parmi de très nombreuses actualités, mais bon, celles qui m'ont frappée ou qui m'ont fait du bien. Donc par exemple, une actualité qui fait du bien, c'est le fait que Jinta Njali Rao, qui a 15 ans, je vais vous expliquer qui elle est, a été élue enfant de l'année par le Time Magazine. Donc c'est une jeune scientifique, une jeune fille donc de 15 ans, qui a été récompensée pour ses travaux sur l'eau potable contaminée, mais aussi pour son implication contre le cyberharcèlement. À l'occasion de la journée du droit des femmes, le Time avait décidé en mars dernier de mettre en avant 100 femmes qui ont marqué l'histoire. Jusqu'en 1999, le titre avait décerné la majorité de ces distinctions à des hommes. Malgré ce changement de typologie, seules 11 femmes avaient été choisies, ont été choisies pour faire la une depuis 1927. C'est la première fois depuis 1927 que le célèbre magazine américain récompense une enfant. Jinta Njali est une jeune fille américano-indienne, âgée de 15 ans. Elle a été choisie parmi 5000 jeunes américaines âgées de 8 à 16 ans. Cette jeune scientifique brillante et inventrice, originaire de Denver au Colorado, a notamment été récompensée pour avoir créé un appareil nommé TETIS qui permet de détecter si l'eau du robinet est contaminée au plomb. C'est un boîtier qui est destiné notamment aux pays en développement avec lequel elle a remporté en 2017 à 12 ans le Young Scientist Challenge. Elle dit « J'avais environ 10 ans quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire des recherches sur la technologie des capteurs à nanotubes de carbone au laboratoire de recherche sur la qualité de l'eau de Denver. » La jeune scientifique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle planche d'ores et déjà sur un appareil capable de détecter les parasites dans l'eau. Et elle travaille également sur un produit qui aide à diagnostiquer la dépendance aux opioïdes prescrits sur ordonnance à un stade précoce. Voilà. Alors, je vais passer en Arabie Saoudite avec une actualité par contre déplorable. Il s'agit de la militante saoudienne des droits humains Loujain Al-Atloul qui a été condamnée à 5 ans et 8 mois de prison. Donc Loujain Al-Atloul est une figure emblématique des défenseurs des droits humains, comme du virage répressif pris par la couronne saoudienne. C'est une militante féministe. Donc je vous ai dit, elle a été condamnée à 5 ans et 8 mois de prison par le tribunal antiterroriste du royaume. Le verdict est assorti d'une suspension de peine de 2 ans et demi. Alors elle a été détenue depuis près de 3 ans, Loujain Al-Atloul, qui a 31 ans, devrait être libérée en mars. L'activiste féministe est connue pour son combat en faveur du droit des femmes à conduire dans le royaume notamment. Elle avait été emprisonnée en mai 2018 en même temps que 4 autres femmes défenseurs des droits humains, puis maintenue à l'isolement total pendant 7 mois. Donc cette condamnation est un avertissement en fait à la société civile. 3 mois plus tôt, elle avait été arrêtée aux Émirats Arabes Unis où elle résidait et elle avait été livrée au service de sécurité de Riyad, soit quelques mois avant la levée de l'interdiction faite aux Saoudiennes de conduire. On voyait un peu l'hypocrisie. C'est un décret donc, qui a été présenté alors par les communicants du régime comme l'une des mesures phares d'un programme d'ouverture de modernisation sociale, impulsé par le prince héritier de la puissance wahhabite Mohamed Ben Salman, dit MBS, dans le cadre de son plan de modernisation du royaume Vision 2030. Cependant, il a arrêté ces femmes qui sont présentées comme des traîtresses par les médias. Et c'est donc un avertissement à toutes ces militantes. Le signe que toute transformation sociétale de l'Arabie Saoudite ne pourrait se faire que par le haut est le fait du prince et ne devrait en aucun cas apparaître comme une concession accordée à des militantes. Voilà, alors une autre actualité parmi les temps d'actualité qui a retenu mon attention, ça se passe au Canada, où une chaîne publique, la CBC TV, s'imagine faire preuve d'ouverture en engageant une animatrice portant un hijab. Alors il y a la réaction de Jemila Benahib, célèbre militante féministe qui lutte contre le voilement des femmes, qui dit « Pour animer une émission d'information nationale au Canada, ignorant par le fait même que des filles et des femmes au Canada souffrent des pressions familiales, communautaires et religieuses pour se conformer à des normes rigoristes islamistes s'agissant de leur rapport au corps, à la sexualité et à leur choix de vie. Ces histoires-là n'arrivent pas qu'ailleurs. Rappelons-nous du quadruple meurtre de la famille Shafia en juin 2019 en Ontario. Oui, 4 assassinats de femmes, Zainab, 19 ans, Sahar, 17 ans, Jiti Shafia, 13 ans, ainsi que Rona Amir Mohamed, 50 ans, retrouvées mortes, noyées dans une voiture découverte dans une écluse du canal Rideau, victimes d'un complot familial. En Belgique, rappelons une jeune femme d'origine syrienne de 28 ans qui a été assassinée il y a quelques jours en raison de son mode de vie trop libre, selon sa sœur, elle-même menacée par une partie de la famille. Ainsi, si la chaîne publique canadienne valide ce choix rigoriste islamiste, elle fait fi du principe d'égalité, elle prend clairement parti pour ceux qui usent de la force pour imposer leur diktat. Que dire de la quête des filles et des femmes pour la liberté et l'émancipation partout dans le monde? Vous n'en avez rien à foutre, en réalité, de ces femmes admirables, dont certaines ne se relèvent jamais, alors que quelques autres forcent le destin. Cette décision de cette chaîne publique CBC n'est pas seulement indécente, elle est simplement immonde. Voilà, alors je vais maintenant passer à un sujet sur le matrimoine artistique. Donc j'ai déjà parlé, je parle régulièrement de matrimoine, mais je n'avais pas tellement jusque-là parlé du matrimoine artistique. Donc je vais le faire grâce à une interview d'une jeune diplômée de l'école du Louvre qui s'appelle Margot Brugvin. Et ce sont des propos recueillis par Lou Cercy sur le magazine 50-50. Donc des extraits de cette interview. Donc Margot Brugvin est diplômée de l'école du Louvre. Après ses études, elle a travaillé dans le milieu de l'art, dans des galeries, puis dans une foire d'art contemporain, un milieu où les femmes souffrent d'une invisibilisation considérable. Pendant le confinement, elle a commencé un projet de revalorisation du matrimoine artistique en publiant chaque dimanche sur son compte Instagram une vidéo d'une dizaine de minutes qui présente le travail et la vie d'une artiste. Donc vous pouvez aller voir donc Margot Brugvin. À travers ses vidéos à la fois précises, complètes et accessibles, elle rend hommage aux femmes artistes et leur offre une visibilité nouvelle. Alors voilà ce qu'elle dit. Elle dit ce qui est incroyable, c'est que j'ai d'abord pensé qu'il n'y avait simplement pas d'artistes femmes aussi talentueuses que les hommes que j'avais étudiés. Je pars donc moi-même d'assez loin. D'ailleurs, lorsqu'en 2009, la commissaire d'exposition Camille Morino avait organisé l'exposition « Elle, Centre Pompidou » consacrée exclusivement aux femmes artistes, je ne comprenais pas ni l'intérêt de ghettoiser les femmes artistes ni l'importance de les mettre en avant. C'est en faisant des recherches plus tard que j'ai réalisé qu'il y avait un grand nombre d'artistes femmes extraordinaires dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis alors plongée dans les travaux des historiennes qui révisent l'histoire de l'art d'un point de vue féministe. Ma perception en a été bouleversée et j'ai commencé à déconstruire tout ce que j'avais appris. Le projet des vidéos s'est mis en place au moment du confinement. J'avais besoin de m'occuper, de me fixer un objectif, alors je me suis lancée sans me poser les questions qui m'avaient jusque-là freinée. Alors elle explique que pour rendre visibles les femmes artistes, puisque elles sont donc, comme vous l'avez compris, très invisibilisées et que c'est difficile de trouver de la documentation et des informations sur le sujet, eh bien, elles se réfèrent à une plateforme qui heureusement existe, donc qui est intéressante de connaître, qui s'appelle AWARE, c'est le sigle AWARE pour Archives of Women Artists Research and Exhibitions, qui rassemble des biographies de femmes artistes. C'est donc la seule base de données qui est uniquement consacrée aux femmes, à sa connaissance. Donc elle s'y réfère souvent et elle conseille aussi de se référer au travail de l'historienne de l'art et commissaire Katie Hessel, qui tient un compte Instagram et un site du même nom, donc Katie Hessel, et qui a travaillé sur de très nombreuses artistes femmes. Il y a aussi un autre site qu'elle conseille, le National Museum of Women in the Arts, qui se trouve à Washington. Voilà. Alors, elle explique du coup qu'il y a un mouvement qui se met en place grâce aux féministes et à la pression qu'elle et il exercent sur les institutions et à la démarche pédagogique des chercheuses, pour la plupart, qui travaillent pour faire comprendre les mécanismes d'invisibilisation dont souffrent les femmes artistes. Et elle dit aussi qu'il faudrait qu'il y ait la parité dans les musées, puisque tant qu'elle ne sera pas atteinte, au moins dans les musées d'art moderne et contemporain, ces initiatives de rendre visibles les femmes resteront absolument nécessaires. Voilà. Alors ensuite, du coup, en pensant aux femmes artistes, je voulais vous parler de... Enfin, j'ai repensé à Nikit Saint-Phal, puisque voilà, c'est une artiste bien connue, reconnue. Et j'ai repensé à elle puisque j'ai retrouvé en fait une vidéo de Lina. Et du coup, je vais vous la faire passer, qui m'a fait beaucoup de bien. Du coup, c'est pour ça que je vais vous la faire écouter tout à l'heure, là. Parce qu'en fait, j'ai adoré la façon dont elle répondait à l'intervieweur, qui est un homme, et vous constaterez de vous-même à quel point elle est patiente et à quel point elle a beaucoup d'humour pour répondre à ses questions et ses remarques qui sont vraiment très lourdingues. Donc je vais vous la faire écouter et juste, bon... vous rappeler que c'est une plasticienne, une peintre, une sculptrice et réalisatrice de films franco-américaines. Enfin, c'était puisqu'elle est décédée. Et elle a soutenu plusieurs causes, celle des Noirs américains, celle de la libération des femmes du patriarcat, celle des malades, donc elle était vraiment voilà, féministe, celle des malades atteints du sida. Elle s'est en effet engagée dans l'association AIDE et elle a réalisé avec son fils un film sur le sujet. Donc sans plus tarder, voilà, je vous fais écouter cette petite interview.
J'exprime exactement les problèmes de la femme aujourd'hui.
Vous avez des gants de plongeur, vous trempez des chiffons dans un seau, vous les étendez. C'est un peu un travail de bonne petite ménagère, non?
Oui, vous avez raison. Ça fait une partie de mon travail, mais au lieu de... Le résultat n'est pas une cuisine. Je ne vais pas vous présenter avec un pot-au-feu, mais j'essaye de vous présenter avec un espèce de délire spirituel de moi-même.
Et pourtant, le résultat n'a rien de féminin.
Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Le résultat est féminin, puisque moi, je suis une femme... Ce qui m'intéresse, c'est exprimer une certaine poésie que je sens en moi. Eh bien, je ne peux que exprimer une poésie féminine. Ça n'a rien à faire. Un mec pourrait jamais faire ça. Il n'aurait jamais pu tirer avec un fusil sur des tableaux comme j'ai fait à une certaine époque. Parce que de se servir de ces engins destructifs que l'homme a imaginés, c'est seulement une femme qui pourrait s'en servir dans un but constructif et beau. Et c'est la même chose avec mon travail. J'exprime exactement les problèmes de la femme aujourd'hui.
Oui, mais je voulais dire qu'au point de vue, il y a une certaine puissance, enfin, qui apparemment...
Alors je vois que j'ai affaire avec un anti-féministe, parce que alors vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs. Moi, je préfère faire des accouchements, parce que c'est mon problème. Les bouquets de fleurs, ce ne l'est pas.
Si ces objets sont des objets en plastique, des matériaux divers, des détritus, oui. Vous les trouvez comment?
Dans les monoprix, n'importe où. Chaque pays a son folklore. Par exemple, en Suisse alémanique, je trouve des têtes de mort, des diables. En Angleterre, ils aiment les monstres. Dans les pays méditerranéens, on trouve des crucifixes, des trucs avec la religion. Et première chose que je fais quand je débarque dans une ville, c'est de fouiller les monoprix. Je peux avoir une idée, alors il faut aller à la recherche de certains matériaux pour les trouver. Une des choses qui m'a intéressée récemment, c'est de faire des têtes, des portraits. C'est ma source principale, c'est l'imagination. D'ailleurs, j'arrive seulement à faire, disons, la moitié des choses dont j'imagine. Je suis débordée par mes idées, alors il faut qu'elles soient vraies pour moi, pour les faire. Je voudrais aller surtout en profondeur, dans le sens de la poésie. D'essayer d'exprimer moi-même, vraiment à fond, et comme ça, en exprimant moi-même, avec toutes mes possibilités, j'exprime automatiquement la situation de la femme dans le monde d'aujourd'hui.
C'est un sujet qui vous tient à cœur, apparemment, la position de la femme dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, parce que puisque je suis femme, c'est naturel que ça me tient à cœur.
Mais puisqu'on parle des femmes, vous êtes en train de faire un cheval,
oui.
Mais avec une femme dessus.
Oui.
Est-ce que c'est une cavalière conquérante, justement, ou bien...
Eh bien, je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Je suis en train de le faire. J'ai eu une espèce de rêve de cette femme. La femme va être toute blanche. Elle va peut-être être une mariée. Elle va être très... Le monstre va être vivant. Il va être plein de couleurs, d'objets. Ce truc-là, la crinière, je crois qu'on appelle ça. Il va être plein d'objets en plastique, la queue aussi. Et le reste va être une espèce de virilité, une brutalité. Mais le blanc, c'est l'esprit pour moi. Alors c'est finalement la femme qui sera sur le cheval qui dominera la situation.
Donc c'était la formidable Nikki de Saint-Phal. Et puis maintenant, vous savez qu'il est sorti le livre donc de Camille Kouchner. Vous avez dû forcément en entendre parler sur l'inceste. Et il faut savoir que Nikki de Saint-Phal a elle aussi vécu l'inceste lorsqu'elle avait 11 ans. Et elle a publié son livre qu'elle a appelé Mon secret, seulement à 64 ans, qu'elle a écrit pour sa fille, 7 ans avant de mourir. Elle dit « J'ai écrit ce livre, Mon secret, d'abord pour moi-même, pour tenter de me délivrer enfin de ce viol qui a joué un rôle si déterminant dans ma vie. Je suis une rescapée de la mort. J'avais besoin de laisser la petite fille en moi parler enfin. J'ai longtemps pensé que j'étais une exception, ce qui m'isolait encore plus. Aujourd'hui, j'ai pu parler à d'autres victimes d'un viol. Les effets calamiteux sont tous les mêmes. Désespoir, honte, humiliation, angoisse, suicide, maladie, folie, etc. Le scandale a enfin éclaté. Tous les jours, des révélations jaillissent sur ce secret, si jalousement gardé pendant des siècles. Le viol d'une multitude d'enfants, filles ou garçons, par un père, un grand-père, un voisin, un professeur, un prêtre, etc. Après le secret, j'ai l'intention d'écrire un autre livre adressé aux enfants, afin de leur apprendre à se protéger, parce que l'éducation qu'on leur donne les laisse sans défense contre l'adulte. Alors son livre, vous pouvez le retrouver, donc il y a une couverture avec un crâne décoré et avec écrit mon secret et son nom Nikki de Saint-Phal, la différence. Ensuite je vais vous lire son livre, c'est juste chaque page, voilà, première page, elle a écrit « Il fallait me reconstruire en dehors du contexte social, au-delà de la société. L'été des serpents fut celui où mon père... Ce banquier, cet aristocrate, avait mis son sexe dans ma bouche. À l'âge de 20 ans, je pris l'habitude de ronger ma lèvre supérieure. C'était un véritable tic. 20 ans plus tard, j'avais tellement maltraité ma bouche que je m'étais créé une deuxième lèvre. Je portais ma honte sur, deuxième page, le visage. Finalement, je décidai de me faire arranger chirurgicalement la lèvre, ce qui me rendit mon visage normal. L'opération avait été douloureuse et je ne fus plus jamais tentée de déformer ma bouche. Je choisirai d'autres parties de mon corps pour exercer mon agression. En 1952, j'avais alors 22 ans, je sortis d'une clinique psychiatrique de Nice après avoir subi 10 électrochocs et un traitement à l'insuline. Ce séjour me fut profitable. Je me mis à peindre avec acharnement et pris la décision d'abandonner la mise en scène et l'art dramatique que j'avais commencé à étudier pour me consacrer à la peinture. En quittant l'hôpital, je pus abandonner le petit arsenal que je portais toujours dans mon sac à main et qui me donnait l'impression d'être protégé. Il consistait en un revolver, 100 balles, de grands ciseaux, des couteaux de cuisine et quelques lames de rasoir. Quelques semaines après ma sortie de l'hôpital, mon père, papa, m'écrit une lettre qui me parvint un vendredi après-midi et pendant 2 ans à la même heure, chaque semaine, j'aurai une migraine qui durerait 24 heures et je resterai terrassée dans mon lit. Cette lettre était une confession. La nouvelle de mon internement avait bouleversé mon père. Il était assailli par le remords. Il voulait se faire pardonner. Tu te rappelles certainement que lorsque tu avais 11 ans, j'ai essayé de faire de toi ma maîtresse, écrivait-il. Je ne me souvenais de rien. L'oubli me protégeait d'une vérité insupportable. Je gardais seulement en moi des images précises de mon père, séduisant à la maison les bonnes et les amies les plus jolies de ma mère. Je montrai la lettre au psychiatre qui me soignait. Il prit une allumette et la brûla. Il me dit « Votre père est fou. Rien ne s'est passé. Il invente. La chose est impossible. Un homme de son milieu et de son éducation religieuse ne fait pas cela. » Le docteur Cossa était lui-même père de famille. Il avait des filles. Il refusait de croire au viol. C'était le point de vue de l'époque. Freud aussi pensait que toutes ces femmes qui se plaignaient d'inceste étaient hystériques. Le docteur Cossa écrivit une lettre à mon père pour lui dire que s'il voulait que sa fille reste définitivement à l'asile, il n'avait qu'à continuer à écrire de pareilles lettres, qu'il ferait mieux de se faire soigner, car il était victime de dangereux fantasmes. De son vivant, je ne fis pas la paix avec mon père. Lui était devenu fier de ma réussite artistique. Je l'évitais le plus possible. Je voyais tout au plus une ou deux fois par an et je maintenais un ton glacial avec lui. Je jetais ses lettres à la poubelle sans les lire. Mon père mourut en 1967, terrassé à 60 ans, par une crise cardiaque. Alors, je vais faire une petite pause musicale et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc je reviens pour La Révolution sera féministe. Alors je voulais vous faire part aussi d'une publication qui m'a semblé vraiment digne d'intérêt sur la sinistre exception culturelle du MeToo à la française. C'est Laure Murat, qui est historienne et écrivaine, qui l'a publiée. Adèle Haenel, Vanessa Springora, Camille Kouchner, Sarah Abitbol, toutes ces affaires sont des affaires de pédocriminalité. Mais le MeToo à la française se distingue surtout par un autre trait, aucun des accusés n'a jamais reconnu les faits. Il y a 2 ans, Sandra Muller, à l'origine du hashtag Balance ton porc, déclarait « La France n'a rien compris à MeToo ». En février dernier, Adèle Haenel renchérissait « La France a complètement raté le coche MeToo ». La France, c'est vrai, a longtemps fait de la résistance à MeToo, ce qui est l'autre nom de la collaboration au patriarcat, dont la tribune de Neuve est un éloquent exemple. Pourtant, même tardivement, des scandales ont fini par éclater, obligeant à une prise de conscience. La série commence avec l'affaire Adèle Haenel, justement, qui révèle avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel de la part du réalisateur Christophe Ruggia sur plusieurs années. À peine 2 mois plus tard, Vanessa Springora secoue le monde de l'édition avec Le Consentement, chez Grasset, sorti en 2020. Récit de sa relation sous emprise avec Gabriel Matzneff. Puis les Césars de la honte ravivent les accusations contre Roman Polanski, qui refont surface et polémique. Aujourd'hui, c'est le livre de la juriste Camille Kouchner, La Familia Grande, paru au Seuil donc cette année 2021, qui fait l'effet d'une bombe en accusant son beau-père, Olivier Duhamel, constitutionnaliste et ancien député européen, professeur et président de la Fondation nationale des sciences politiques, de viols répétés sur la personne de son frère jumeau, qu'elle appelle Victor dans le livre. Toutes ces affaires ont un point commun, qui est aussi la sinistre caractéristique du MeToo à la française. Elles concernent des enfants ou de très jeunes adolescentes. Adèle Haenel avait 12 ans au moment des faits, Vanessa Springora, 13 ans, et Victor Kouchner, 14 ans. Quant aux accusatrices de Polanski, leur âge au moment des faits présumés ou avérés dans le cas de Samantha Gamer, droguée et sodomisée à l'âge de 13 ans, par le réalisateur, aussi entre 10 ans et 18 ans. Toutes sont des affaires de pédocriminalité. Comme si le viol ou l'agression sexuelle n'était vraiment condamnable que lorsqu'il s'agissait d'un enfant, d'une enfant dont on aura saccagé l'innocence. Une femme adulte qui se fait violer n'est jamais vraiment innocente. Elle est toujours un peu aguicheuse, cherche à obtenir un rôle au cinéma ou un avantage auprès d'un puissant. C'est la trop fameuse promotion canapé. Luc Besson, Gérard Depardieu, Gérald Darmanin ont été accusés de viol. Les plaignantes ont toutes dû se battre pour que les dossiers soient rouverts après un classement sans suite. Pour les autres, Tristan Bannon, Valentine Monnier, etc., on balayera le problème, un peu hérité par ce déballage tardif. On revendiquera sans vergogne le libertinage. « Je suis un libertin incompris », aura le front d'affirmer Denis Baupin, quand DSK, en réponse à ses comportements de prédateur, invoquera sans rire les jeux de la séduction. On temporisera, ce n'est pas si grave, il n'y a pas mort d'homme. Si les cas de pédocriminalité ne sont pas les seuls du MeToo à la française, loin s'en faut, ils ont été, et de loin, les plus médiatisés, les seuls à vraiment retenir l'attention et être pris au sérieux. On peut y ajouter celui de la patineuse Sarah Abitbol, qui dans Un si long silence, paru aux éditions du Plomb en 2020, raconte les viols répétés de son entraîneur alors qu'elle avait 15 ans. Une autre patineuse, Hélène Godard, accuse le même Gilles Beyer de l'avoir violée à l'âge de 12 ans. À l'exception d'Adèle Haenel dans tous les cas, pour Springora, Kouchner, Abitbol, les faits datent d'il y a 30 ans ou plus et sont prescrits. Les victimes ont refusé de porter plainte ou y ont renoncé alors qu'il était encore temps. L'onde de choc de MeToo leur a donné la force et le courage de parler pour la première fois publiquement. Tout le monde voyait que Christophe Ruggia avait une attitude inappropriée avec Adèle Haenel. Tout Saint-Germain-des-Prés connaissait les goûts de Matzneff, par ailleurs étalé dans ses livres. Tout le milieu du sport, jusqu'au ministre de l'époque, avait été alerté sur le comportement de Gilles Beyer. Même l'affaire Duhamel était parfaitement connue d'une élite qui a choisi de se taire à l'exception notable de l'actrice Marie-France Pizier, la tante de Victor Kouchner, morte avant d'avoir pu agir sans doute. Or, malgré les évidences qui se répètent, malgré les affaires qui se multiplient selon rigoureusement la même structure, le silence est toujours d'or. Il y a quelques jours, Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po qui s'enorgueillissait hier d'être l'ami d'Olivier Duhamel, s'est déclaré sous le choc des révélations de Camille Kouchner et a jugé infamant qu'on puisse penser qu'il était au courant. Il a dû finalement avouer avoir été alerté il y a 2 ans. Ces affaires portées par la presse écœurent le public, mais n'ébranlent pas les institutions, comme si l'essai n'était jamais transformé, ni l'événement suivi d'une réforme de fond. Le jury du prix Renaudot, où siège toujours Christian Giudicelli, complice de Maznev dans leurs exactions de touristes sexuels, ne juge pas nécessaire de se remettre en question. Après avoir été plébiscité au César, Roman Polanski a été reconduit comme membre de l'Assemblée générale avant la suppression en novembre de la possibilité d'être membre de droit, ce qui provoqua son départ avec 17 autres personnes, en lui évitant une humiliation personnelle. Frédéric Mion, jusqu'à nouvel ordre, ne songe pas à prendre ses responsabilités en démissionnant. La littérature se bouche les oreilles, le cinéma ferme les yeux et le pouvoir tient ferme sa couronne. En ce sens, oui, la France pourrait bien finir par passer à côté de MeToo, dont le ministre de la Justice est d'ailleurs un ennemi déclaré. Car se scandaliser des affaires sans effleurer le système qui les a rendues possibles, c'est ne pas prendre acte du drame qui s'est joué, ni prendre la mesure de l'horreur. C'est ramener le crime à un fait divers isolé, sans suite ni conséquence. C'est molester ces enfants devenus grands une deuxième fois. Outre que d'être de façon prédominante des affaires de pédocriminalité, le MeToo à la française se distingue par un autre trait. Aucun des accusés n'a jamais reconnu les faits. Aucun, y compris dans des affaires entre adultes. Un record. Voilà. Alors pour ce qui concerne Sarah Hadbitbol, on a su que son ex-entraîneur Gilles Beyer a été enfin mis en examen. Voilà sa réaction donc, de Sarah Hadbitbol. Elle a dit « Je vois que les accusations retenues sont des agressions et du harcèlement, alors que moi, j'ai subi des viols. Mais c'est regrettable, ces faits sont prescrits. Je sais qu'une autre patineuse a témoigné auprès de la police avoir été violée par le même agresseur, mais pour elle aussi, les faits sont prescrits. Je trouve injuste que nous ne puissions pas être sur le banc des victimes face à la justice. J'espère que d'autres victimes non prescrites, sortiront de leur silence. Cette affaire pose encore une fois la question de la prescription des crimes sexuels contre les mineurs. C'est mon combat aujourd'hui. » Alors, pour rappeler, j'en profite pour rappeler quelques chiffres s'agissant de l'inceste. Plus de 6 millions de victimes d'inceste en France, selon l'association Face à l'inceste. 165 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, selon l'association Mémoire traumatique donc de Muriel Salmona et Victimologie et l'UNICEF. Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, selon le Conseil de l'Europe. Donc, c'est énormissime. Alors, j'avais traité du sujet de l'inceste, mais bon, bien sûr, je vais y revenir. Et grâce, en fait, à une femme qui s'appelle Charlotte Pudlowski et qui a produit des podcasts qui s'intitulent « Ou peut-être une nuit » que vous pouvez trouver à peu près sur tous les sites de podcasts. Et elle rappelle, elle dit cela. « J'ai interviewé une anthropologue pour mon podcast « Ou peut-être une nuit » qui s'appelle Dorothée Ducis. Cette anthropologue a écrit un livre qui s'appelle « Le berceau des dominations » et qui raconte extrêmement bien la manière dont la famille agit comme berceau de domination. C'est là que l'on apprend la violence et le silence. Et quand on a subi l'inceste, on a beaucoup plus de probabilité d'être victime à nouveau de violence dans sa vie d'adulte et dans sa vie de femme. Donc l'inceste est complètement lié au patriarcat. C'est ça que j'essaye de dire sur le côté systémique et le côté structurel. Tout cela ne sont pas des faits divers, c'est complètement lié à l'ordre patriarcal dans lequel on vit. Donc je reviendrai dans une autre émission sur ce qu'on peut apprendre avec cette Dorothée Ducis et son livre « Le berceau des dominations ». C'est très intéressant et j'ai trouvé une interview d'elle qui explique beaucoup de choses sur les mécanismes de l'inceste. Ensuite, j'ai relevé aussi donc, une réaction, bien sûr, d'Andrea Bescon, qui est une autrice et réalisatrice, notamment du film Les Chatouilles, où elle a, par rapport à son histoire qu'elle a vécue, elle aussi, l'inceste. Donc, elle dit « L'inceste est un gouffre et la France est en retard. La pédocriminalité sévit dans la société entière, protégée par une complaisance générale, celle des adultes, de tous les adultes qui ne veulent pas briser le tabou, parce que ça gêne, parce que c'est sale, parce que ce ne sont pas leurs affaires. Cette complicité passive de l'entourage, soit parce qu'il est sous emprise, soit parce qu'il est égoïste, cette complicité toujours silencieuse, implicite, persiste dans tous les milieux et au fil des décennies, et les enfants demeurent broyés par la perversité des uns, par la lâcheté des autres. Il est temps de faire de la prévention, il est temps de renforcer les lois, instaurer un seuil de non-consentement fixé à 15 ans, en cas de pédocriminalité, et à 18 ans pour ce qui concerne l'inceste. Donc ce seuil, j'en parle souvent dans les émissions, qui n'est toujours pas passé. La loi Schiappa a été complètement en échec malgré la pub qui se sont fait en faisant croire qu'ils avaient passé ce seuil et que tout allait bien. Ce seuil n'est pas passé. Et il faut aussi rendre l'imprescriptibilité, voilà, il faudrait la rendre impossible, voilà, et en fait c'est quelque chose qui existe en Europe, mais pas en France, donc sur ces crimes sexuels sur mineurs, voilà, mais quand on fait mine de découvrir qu'un constitutionnaliste est un violeur d'enfants, on comprend mieux d'où viennent les résistances. Donc, je vais passer à un autre sujet en rapport aux femmes handicapées et à la prostitution. Donc voilà. Donc il s'agit en fait d'une. Faut que je retrouve. Pardon. Voilà. Il s'agit d'une tribune qui a été écrite par une association de femmes handicapées, et pas que celle-là, donc une association qui s'appelle Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui a écrit une tribune pour lutter contre un projet qui risque de passer si on ne reste pas en alerte, un projet d'assistanat sexuel qui serait réclamé par certains hommes handicapés, et aussi, surtout derrière, il doit y avoir les lobbies pro-prostitution. Donc cette association Femmes pour le dire, Femmes pour agir a alerté déjà les députés sur cette question. Et on attend une réponse qui devrait venir en février. Donc je vais vous lire cette tribune. Donc c'est un manifeste qui a été écrit par des associations donc, de personnes handicapées et qui s'adresse à tous les acteurs et à toutes les actrices politiques, sociaux, sociales et économiques qui œuvrent pour le respect des droits des personnes en situation de handicap en France et dans le monde. Ce manifeste insiste sur l'exigence de dignité que nous, personnes handicapées, réclamons dans notre désir de vie sexuelle et affective. Nous, personnes handicapées, voulons vivre dans un environnement qui permet d'avoir une vie sociale, de rencontrer des partenaires, de choisir celle ou celui avec qui nous voulons avoir des relations sexuelles et affectives. Donc l'intitulé du manifeste, j'ai oublié de le dire, s'appelle « Manifeste pour une vie affective et sexuelle digne pour les personnes en situation de handicap ». Nous nous opposons donc à toute disposition particulière et spécifique qui nous traite comme une entité homogène, sans tenir compte de la diversité des individus, qui ne fait que nous renvoyer dans l'exclusion et nous mettre en dehors de la société. Nous disons non à la discrimination sexuelle des personnes handicapées, car nous sommes des individus à part entière au sein de la société et parce qu'il n'existe pas de besoins sexuels propres aux personnes en situation de handicap. Nous, personnes handicapées, défendons l'égalité femmes-hommes. Nous ne voulons pas reproduire une relation d'inégalité et de domination entre femmes et hommes dans une vision du passé où le corps des femmes est à la disposition des hommes, où un homme achète le corps d'une femme et le domine par l'argent. Nous ne voulons pas de nouvelles femmes de réconfort, avec toutes les dérives et violences inhérentes à cette situation. Nous, personnes handicapées, qui pour la majorité vivons dans la précarité, souvent sous le seuil de pauvreté, nous avons besoin de financement pour avoir un logement décent, un emploi valorisant et lucratif, des aides quotidiennes, des moyens de transport, des occasions de rencontre. Nous nous opposons donc au financement par la sécurité sociale de formations et services sexuels dédiés aux personnes en situation de handicap et demandons que des financements soient mis à notre disposition, là où nous en avons besoin, pour notre vie de citoyens et de citoyennes. Nous, personnes handicapées, voulons qu'on respecte notre intimité. Nous nous insurgeons contre le fait que les médias ressassent avec délectation, car il s'agit de sexe, le sujet de l'assistance sexuelle sans débat de fond, les journalistes pensant ainsi faire de l'audience. Nous ne voulons pas que notre sexualité alimente le voyeurisme des spectateurs et spectatrices sans réel débat. Nous, personnes handicapées, voulons qu'on nous laisse nous occuper nous-mêmes de notre vie affective et sexuelle, alors que celle des personnes dites valides n'est souvent pas un modèle. Nous leur refusons toute légitimité pour penser et agir au nom des personnes handicapées. Nous, personnes handicapées, interpellons toute la société sur la sexualité. Comment préparer les enfants et les jeunes à des relations sexuelles dans le respect de l'autre, à les informer de la richesse des différences ? Quelle place pour la sexualité dans une société de consommation, d'urgence et de pornographie ? Quel équilibre assurer entre liberté individuelle et contraintes sociales. Nous, personnes handicapées, souhaitons que la société change de regard sur notre sexualité et notre vie affective, sans nous stigmatiser, mais en nous incluant dans la vie sociale. Pour cela, nous, personnes handicapées, demandons, donc voici les revendications. Premièrement, une éducation à la sexualité et la vie affective dès le plus jeune âge, dans le respect de l'autre, de son essentiel consentement, dans l'échange des désirs, comme des plaisirs. Deuxièmement, la déconstruction des stéréotypes et préjugés sur le handicap par une sensibilisation dans les établissements scolaires et par le mélange, dès la vie enfantine, des enfants et des personnes atypiques et différentes dans le même espace social. Cette déconstruction nécessite une formation des professionnels encadrant des personnes handicapées. Une information sur les droits sexuels et reproductifs, en particulier pour les jeunes filles et femmes, choix de la contraception, maternité, parentalité et sur l'accès à l'IVG. Une information sur les droits sexuels et les responsabilités individuelles pour les jeunes garçons et les hommes, choix de la contraception, paternité et respect permanent des désirs hors des schémas pornographiques. Le développement de l'accessibilité universelle des lieux de loisirs, des sports, de travail, de vie sociale. Le développement d'aides techniques pour favoriser la vie quotidienne des personnes en vulnérabilité, quelles qu'elles soient, les raisons et les besoins. Voilà, donc ce manifeste est soutenu par de nombreux signataires, dont l'Amicale du Nid, donc, qui, d'ailleurs j'ai fait une émission récemment, la dernière émission que j'ai faite, c'est avec l'Amicale du Nid. Donc association sur le terrain avec les femmes prostituées, voilà, et qui est une association aussi abolitionniste. Donc l'Assemblée des femmes, l'Association francophone de femmes autistes, le CIAMS, donc il y a une coalition internationale pour l'abolition de la maternité, la CLÉ, CQFD lesbiennes féministes, Femmes solidaires, la Ligue internationale, la Ligue du droit international des femmes, la Maison des femmes, la Marche mondiale des femmes, mémoire traumatique et victimologie. Voilà, de nombreuses associations. Donc, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Il y a aussi une écoute des violences femmes handicapées. Organise une écoute, c'est le 01 40 47 06. Pour finir sur ce même sujet, je voudrais vous faire écouter Olivier Manceron. Qui va vous parler de ce que c'est que Femmes pour le dire, Femmes pour agir, et aussi qui va vous réexpliquer le contexte concernant justement cette très mauvaise idée de soi-disant aidant sexuel. Donc je vous laisse l'écouter.
Olivier Manseron, Femme pour le dire, Femme pour agir. Je présente mon association. FDFA est une association dont le but est de promouvoir la place des femmes handicapées dans la société afin qu'elles soient pleinement citoyennes. Elles sont femmes et citoyennes avant d'être handicapées. FDFA lutte contre cette double discrimination qu'entraîne le fait d'être femme et handicapée. Mais FDFA aussi dénonce et milite contre les violences faites aux femmes et particulièrement aux femmes handicapées. 4 femmes porteuses de handicap sur 5 ont ou ont été victimes de violences criminelles, en particulier sexuelles. Femmes pour le dire, femmes pour agir, lutte aussi contre la marchandisation des corps. Voilà ce qui est écrit dans le rapport pour le projet de loi renforçant la lutte contre les systèmes prostitutionnels de 2016. Les chiffres, parce qu'il faut parler, des chiffres. Les chiffres de la Direction centrale de la police judiciaire indiquent que 82% des victimes de la traite et du proxénétisme, qui sont des femmes, dans 90% des cas, sont étrangères. Tandis que 80% des victimes de la traite telles que définies au premier alinéa de l'anime de l'article 225.4.1 du Code pénal sont en France utilisées à des fins d'exploitation sexuelle. Au total, depuis le début des années 2000, les femmes victimes de proxénétisme sont à plus de 70% de nationalité étrangère. Cette proportion augmente d'ailleurs régulièrement. Les personnes originaires d'un pays ne faisant pas partie de l'Europe de l'Ouest, représente 81% des victimes de proxénétisme, alors que cette proportion s'élevait déjà à 74% en 2010. Enfin bon. La société se montre là, totalement exclusive. Bon, une accessibilité parcimonieuse de l'espace public, comme la vie recluse en institution, enferme les personnes en état d'handicap dans une prison physique et mentale. Une éducation sexuelle personnalisée leur permettrait de se ressentir des partenaires à part entière de leur vie affective. Mais la culture de la sexualité performance ou besoin sanitaire indispensable impose aux hommes, handicapés ou non, une croyance perverse. Les médias, la publicité et la pornographie leur chantent aux oreilles un droit au jouir, qu'ils réclament ensuite comme dû, alors que les femmes porteuses du handicap ne trouvent pas de place. Naturellement, dans ce cadre, elles y sont encore plus ostracisées jusqu'à en devenir même un symbole pervers. Les femmes handicapées sont plus vulnérables, surtout les femmes handicapées porteuses d'un handicap mental. Et certaines sont des victimes de choix pour le système prostitutionnel. En outre, des sites de prostitution des personnes handicapées se développent sur Internet avec toute une terminologie spécialisée que j'ai entendue, mais je n'ai pas retenu. Femme pour le dire, Femme pour agir a pris fermement position depuis de nombreuses années contre le projet d'assistance sexuelle que réclament certains hommes handicapés. Elle a alerté la première, les pouvoirs publics, les députés, sénateurs, sénatrices, sur le recours des aidants sexuels, plutôt des aidantes sexuelles, car le recours des aidantes sexuelles formées et rémunérées pose fondamentalement la question de la prostitution, comme réponse à des soi-disant besoins, toujours ces besoins des hommes. La demande est essentiellement masculine, et la réponse est essentiellement féminine. Cela correspond à une dérive de la conception médicale du handicap, une conception complètement obsolète. Un soin sexuel spécialisé pour les êtres diminués se veut l'aboutissement de la prise en charge médico-sociale. Les assistantes sexuelles répondraient aux demandes des hommes handicapés de la même manière qu'à celles de tous les hommes prostitueurs. Elles seraient socialement normalisées, au service de l'inavouable, tels des thérapeutes dévoués à une étrange médecine parallèle. La société reste misogyne, archaïque et exclusive. Même S'il s'agit d'aidants masculins, le problème demeure celui de la marchandisation des corps, de la femme ou de l'homme. Ce recours supposerait un ajustement des lois sur le proxénétisme, faisant des personnes handicapées un groupe à part avec une sexualité spécifique, les renvoyant dans un ghetto au lieu de leur ouvrir l'environnement et introduisant une brèche dans la loi contre le proxénétisme. Jusqu'ici, la demande d'assistance sexuelle a été mise en veilleuse et la loi de 2016, le 13 avril 2016, pénalisant l'achat des services sexuels, renforce l'inégalité de la prostitution comme de l'assistance sexuelle. Pourtant, des formations d'assistance sexuelle ont lieu, malgré tout, ont eu lieu, malgré leur provocatrice inégalité et nos alertes réitérées. C'est une association comme l'APAS, A2PAS. Des associations s'organisent pour remettre maintenant cette revendication dans l'actualité, comme le STRAS et autres associations à fondement dont les racines vont plonger dans le proxénétisme. Certains de leurs membres n'hésitent pas à agresser et à terroriser sur la place publique celles et ceux qui affichent leur accord avec la loi sur la pénalisation des clients prostitués. Ces associations pseudo-syndicales recherchent l'abolition de cette loi en infiltrant les médias, les groupes féministes et les partis politiques. Seule l'interdiction d'achat de services sexuels de la loi de 2016 permet de stopper cette demande. Ainsi, la remise en cause de la pénalisation serait une ouverture pour les promoteurs de l'assistance sexuelle et pour les aidants proxénètes de toutes les prostitutions. Ainsi, la question posée par la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel, au Conseil d'éthique, dont elle attend la réponse début février prochain, réalise un véritable cheval de Troie des partisans des violences prostitutionnelles, et en particulier contre les personnes handicapées et contre les femmes, encore plus.
Ah mince. Voilà donc.
Et voilà.
C'était donc Olivier Manceron que j'ai pas présenté. C'est donc un homme pro-féministe, abolitionniste, et du coup voilà que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc en fait, il m'a envoyé un petit audio pour se présenter. Donc je vais juste vous faire écouter. Ça dure une minute pour que vous sachiez qui il est, et ce sera lui-même qui se présente et je terminerai l'émission. Voilà.
C'est un petit moment de ululement du hibou. Je suis le docteur Olivier Manceron. Voilà, je me présente. Je suis le hibou se présente. Je suis né le 14 novembre 1949 à Neuilly-sur-Seine, ghetto Sarko. Vous voyez le genre, Passy, etc. Mais je vis dans l'Oise, dans les froids durs, assez durs. J'étais médecin de famille depuis 1970, mais en 2008, je suis tombé malade. Bon, pendant toutes ces années-là, j'ai appris à écouter la souffrance des gens. J'ai été écrivain de théâtre et de poésie depuis toujours. J'ai été slameur avant l'heure. Et puis j'ai publié deux livres, deux essais, « Le sexe zéro » et « Parole d'homme », pour souligner qu'il n'y a pas d'amour possible dans la domination. Je suis membre de diverses associations, et en particulier de Zéro Macho et de FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui combattent les violences.
Voilà.
J'exprime exactement.
Ah, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais laisser l'émission suivante, article 25, et ils m'ont passé une petite annonce pour faire le lien entre, j'imagine, mon émission féministe et eux. Donc, une annonce de collecte, donc de protection périodique, si j'ai bien compris, le mercredi 20 janvier de 15h30 à 17h au Carrefour Market, Jules Contini, voilà. Ou aussi un point de collecte fixe à la pharmacie du Centre Bourse. Botticinal. Voilà, eh bien je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine et je vais donc laisser la place à article 25. À bientôt, merci de votre soutien.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.